Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et on en avait presque perdu l'habitude, mais on est très content d'avoir un invité en présentiel dans notre studio ce soir. Et c'est Julien, journaliste à La Topette, hein, le journal local populaire et indiscipliné, qui est venu nous présenter leur dernier numéro. Et l'on retrouve également Léo, revenu de son congé sabbatique, j'ai envie de dire, pour cette émission. Bonsoir à tous les deux.
Salut Thibaut.
Salut Thibaut.
Alors c'est devenu un peu une... C'est devenu une tradition au fil de la saison. On se retrouve à chacune des parutions de La Topette et on va pouvoir faire le tour de ce numéro 4. Avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu généralement comment ça s'est passé les derniers mois pour vous depuis qu'on s'est vu?
Depuis qu'on s'est vu, donc c'était le dernier trimestre. Donc nous, on a un journal trimestriel papier sur le Maine-et-Loire. Donc notre dernier numéro était sorti en mars. Et on a travaillé sur un nouveau numéro là qui vient de sortir il y a quelques jours. Il est sorti début juin. Et on a essayé de faire un numéro assez estival avec des sujets variés, un peu plus ruraux que d'habitude. On parle un petit peu moins danger. On a voulu un peu sortir de la morosité ambiante surtout. Là, on commence un peu à oublier les périodes de confinement, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on essayait de faire avec ce numéro, mais toujours avec des enquêtes assez fouillées et un travail de qualité, on espère.
Ça a permis d'avoir, avec le déconfinement, le relâchement du couvre-feu, ça vous a permis vous, de vous travailler, de vous voir de manière un peu plus fluide ou finalement, vous avez pris l'habitude aussi?
Le truc, c'est quand on commence un numéro, forcément, quand l'autre sort, donc on avait commencé au mois de mars, on était un peu encore une période morose, mais on a vu quand même au fil des jours qu'on avait un peu plus de liberté, surtout les gens étaient plus disponibles, ce qui pouvait être compliqué cet hiver, parce qu'on essaie avant tout de faire parler les citoyens dans notre journal, et c'est vrai que c'était parfois compliqué de les avoir, d'avoir des gens disponibles, et là, ouais, quand même, les choses se sont un peu améliorées, on a pu faire pas mal de choses sur ce numéro.
Et ce numéro, ça va aussi marquer la première année de votre projet. Vous avez peut-être pas encore fait le bilan global, mais est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs, que ce soit en termes de lecteurs, en termes de sujets que vous vouliez aborder tout au cours de cette première année?
Complètement, ouais, parce qu'on savait pas trop où on partait à la base. Pour être honnête, moi je pensais vendre 300-400 numéros au premier exemplaire, et en fait on a su tout de suite trouver un public. On attire de la sympathie, je pense, auprès de nos lecteurs. On a eu énormément de messages de soutien au long de toute cette année. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, avec des gens qui nous ont dit que c'est quelque chose qui manquait sur le paysage médiatique de l'Anjou. Donc ouais, les objectifs sont plus que réussis à 100%. Ça nous donne encore plus de motivation pour continuer encore de nombreuses années, on espère. Et puis après, sur le tour des sujets, on est frustrés parce qu'on aimerait en faire beaucoup plus. On a encore une foule de sujets à traiter. Et voilà, on espère qu'on aura le temps de le faire dans les prochains mois.
Et vous avez réussi aussi tout au long de l'année à vous implanter, alors pas seulement dans les centres urbains, mais à développer votre réseau de distribution dans des communes plus rurales, et c'était aussi un de vos objectifs?
Ouais, complètement, c'était un objectif. On voulait pas parler qu'aux urbains, on voulait également parler au monde rural, parce que déjà nous, les journalistes de La Topette, on en est issus, et on pense que c'est un des territoires qui sont sous-traités dans l'actualité. Donc on voulait parler de la campagne, mais aussi être distribué dans la campagne, c'est-à-dire qu'il y a en tout 150 points de vente où on peut retrouver La Topette dans le département. Et souvent c'est des petits cafés, des petits bars tabac de village, et on est présent là-bas aussi. Et il y a effectivement un lectorat. Alors forcément il y a moins de monde qu'en ville, mais il y a quand même pas mal de lecteurs de la campagne qui viennent, et là-dessus on est très satisfait aussi.
Au programme donc de ce numéro 4, on retrouve notamment un dossier sur l'état des rivières dans la région, qui est composé de plusieurs articles. C'était un sujet qui vous tenait à cœur d'aller explorer?
Ouais, ça faisait longtemps qu'on voulait traiter ce sujet, parce que dans le Maine-et-Loire, c'est très important. Déjà, on est traversé par la Loire, qui façonne un peu le paysage de notre département, mais il y a plein de rivières aussi importantes, que ce soit la Mayenne et la Sarthe. En tout, il y a plus de 7500 km de cours d'eau sur l'ensemble du département. Je crois qu'on est même le département le plus fourni en la matière. Et on voulait en parler, on partait un peu de rien parce que c'est un sujet qu'on maîtrisait pas, et du coup c'est une collègue, Marie, qui a fait ce travail et qui a énormément travaillé. Ça a été des milliers de pages de rapports qu'elle a lus, des dizaines d'heures d'interviews avec des spécialistes, aussi des acteurs du monde agricole, des pêcheurs, etc. Et voilà, en fait on s'est rendu compte que nos rivières n'allaient pas si bien que ça. Pour donner un chiffre rapidement, il y a moins de 5% des masses d'eau de l'ensemble du Maine-et-Loire qui sont considérées comme en bon état seulement.
Et oui, donc ça, le premier article qu'on trouve sur le sujet, c'est un état des lieux un peu général qui permet d'introduire le sujet et qui, j'imagine, est un peu la vulgarisation des recherches que votre collègue a effectuées pour les différents sujets.
C'est ça, il y avait énormément de matière, et ce qu'on veut aussi, toujours avec la Topette, c'est rester accessible et rendre cette matière qui est très lourde, compréhensible et intéressante et agréable à lire. Donc il y a vraiment un vrai travail de vulgarisation, ça c'est un effort qu'on a fait. Et notamment le fil rouge, on suit un pêcheur qui est un des derniers pêcheurs professionnels sur la Loire, ils sont moins d'une dizaine dans le département, et lui a une vraie connaissance en plus de son métier, parce que dans sa famille, ça fait plus de 10 générations qu'on exerce le métier de pêcheur professionnel, et donc lui en plus a pu vraiment analyser l'évolution via les échanges qu'il a pu avoir avec ses aïeux, notamment au niveau des poissons et au niveau de l'état des rivières. Et du coup, on suit un peu le fil rouge avec ce pêcheur. Ça permet de rendre le sujet plus accessible, plus de se figurer les choses. Et là-dessus, on rajoute aussi beaucoup de statistiques, de tout notre travail de recherche qu'on alimente pour rendre le sujet attractif, effectivement.
Une des problématiques sur laquelle vous vous penchez, c'est la question de la sécheresse et des pénuries, alors qu'on a déjà connu et qui vont être amenées à se reproduire. C'est une des problématiques qui est ressortie dans les recherches qui ont été faites.
Oui, complètement, et c'est ce qui inquiète le plus de nombreux acteurs autour de ça. Faut savoir qu'on est normalement, on a un climat océanique ici, donc il y a beaucoup d'eau, mais en fait on subit de plus en plus d'épisodes de sécheresse. Il y en a eu un qui a été très fort en 2019 notamment, où il y a eu des restrictions de pompage d'eau sur la grande majorité des cours d'eau du département, et ça inquiète beaucoup parce que l'eau elle est vitale. Alors on parle pas de l'eau potable, surtout on va pas manquer d'eau potable a priori dans les prochaines années dans le Maine-et-Loire, mais surtout ce qui est inquiétant, c'est au niveau agricole, et ça pose vraiment beaucoup de questions sur notre souveraineté alimentaire, notamment parce que est-ce que les agriculteurs vont pouvoir continuer à produire, pouvoir continuer à produire, à manger, et comment on va faire dans quelques années s'il y a des vrais problèmes d'eau et que les agriculteurs ne peuvent plus faire leur métier.
Et au niveau de l'eau potable, par contre, vous vous êtes penché sur le cas particulier de Cholet, avec une gestion du marché de l'eau potable qui a été disputée entre Suez et Veolia, qui sont les deux gros acteurs du secteur.
C'est ça, ouais. On a fait aussi un sujet d'investigation à côté, parce que récemment, à la différence d'Angers qui est en régie publique, donc c'est-à-dire que c'est la collectivité qui gère l'eau, Cholet, pour diverses raisons, passe par un acteur privé. Depuis plusieurs dizaines d'années, il fonctionnait avec Suez, et au grand étonnement de tout le monde, en fait, cette fois, ils ont choisi Veolia. Alors en plus, ça intervient, pour ceux qui ne savent pas, il y a une fusion en ce moment entre Veolia et Suez, et Veolia a emporté le marché, et surtout, ce qui est très étonnant, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher aux Choletais que si l'offre de Suez a été choisie. Donc ça pose énormément de questions. Pourquoi ce choix? On essaie un peu de donner les réponses dans cet article.
Et dans ce que vous avez pu voir, dans les personnes avec qui vous avez pu échanger, est-ce que c'est des problématiques que les pouvoirs publics ou que les acteurs privés quand même prennent en compte? On est amené à voir une évolution si ces sujets-là sont débattus, ou est-ce que on n'est pas encore sorti de...
Au niveau de la qualité de l'eau?
Ouais.
Ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de Cholet, avec Veolia qui gagne une offre, elle gagne l'offre parce que ce que les élus mettent en avant pour expliquer leur choix, c'est qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques, que les agents de Veolia, dans quelques années, rouleront en voiture électrique. Enfin, on est vraiment sur des micro-choses qu'on peut considérer comme du greenwashing et qui prennent pas vraiment l'ensemble de la problématique en amont. Et on le voit sur le problème de l'eau, en fait, c'est vraiment des questionnements énorme à revoir sur notre modèle agricole, parce qu'on met souvent en cause les agriculteurs, notamment question de la pollution, parce qu'ils utilisent beaucoup de pesticides. Mais en fait, il faut savoir qu'aussi les agriculteurs, s'ils utilisent des pesticides, c'est parce que c'est un métier qui paye très peu, donc ils sont de moins en moins nombreux sur les exploitations, et les pesticides, c'est un moyen de travailler plus rapidement, plus efficacement. Et tant que les agriculteurs n'auront pas assez de revenus, gagneront pas assez leur vie de leur travail, ça sera très difficile de se passer des pesticides. Donc c'est vraiment une refonte totale du modèle qu'il faut voir, et pas seulement des jugements à l'emporte-pièce en ciblant qu'une partie de la population.
Et le sujet est vaste. Tu as évoqué hors antenne la possibilité que vous aviez de pouvoir continuer à travailler dessus via d'autres angles dans les futurs numéros.
C'est ça, ouais. On a un petit exclu pour Radio Campus. On n'a pas encore tout dit sur les rivières. On a un sujet très très important. C'est vraiment une grosse enquête là pour le coup. Elle tenait pas dans ce numéro-là. On voulait pas lui accorder une petite place. Donc dans le prochain numéro, il y aura encore un beau sujet sur les rivières.
Ça permet de rebondir également sur la couverture du numéro, donc avec ce dossier à la une, on retrouve Aliénor Ouvrard à l'illustration, qui avait également illustré la couverture du numéro 1. Voilà, ça permettait aussi de boucler un peu la boucle de cette saison.
Ouais, complètement. Bah, du coup, on était en plus très attaché à son travail, comme c'était le tout premier, et puis on voulait un numéro estival, voilà, couvre un peu l'horizon, et c'est complètement dans son univers, quelque chose de très coloré, très doux, avec un très très beau paysage, et c'est vraiment pour ça qu'on a encore confié à Aliénor, parce que ça correspondait complètement à ce qu'on imaginait pour cette couverture, et elle est vraiment très très belle, on en est super fiers.
Alors, j'ai pas refait le listing des illustrateurs et illustratrices qui ont contribué, mais est-ce qu'on... alors, je sais qu'on en retrouve qui étaient là précédemment. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Est-ce que vous continuez à chercher, vous aussi, des personnes avec qui travailler à ce niveau-là?
On en cherche toujours. C'est souvent eux qui... Enfin, c'est même toujours eux qui viennent nous contacter, parce que ça marche un peu aux affinités, à la topette. On est tous bénévoles, donc c'est comme on s'entend. Et souvent, des gens qui sont attirés par le projet. Là, il y a notamment Olivia Huet, qui est une nouvelle illustratrice, qui débute aussi dans l'illustration, qui elle a illustré une interview de l'autrice Danielle Salnave, et voilà, il y en a qui n'ont pas pu dessiner parce qu'ils n'étaient pas disponibles, mais qui vont revenir aussi ensuite, donc il y a un petit roulement, et ouais, ça commence à faire une belle petite équipe d'illustrateurs et qui donnent à chaque fois leurs pattes. C'est des pattes très différentes, c'est ça qui est intéressant aussi, des gens qui ont des aspects plus BD, d'autres illustrateurs qui font des choses plus graphiques, et ça donne un bel ensemble au tout.
Et je peux rebondir alors également sur justement cette interview de Danielle Salnave. Vous relevez vous-même, hein, que ça paraît comme ça de premier abord sortir de votre ligne éditoriale, dans les personnes que vous cherchez à interroger, à mettre en avant. C'est la lecture de ces livres qui vous a motivé à aller la chercher.
Ouais, complètement. C'est ce qu'on explique en introduction de l'article. Ce qu'on voulait faire avec la topette, c'est donner la parole aux gens, la parole aux gens ordinaires, comme on peut dire, qui monsieur et madame tout le monde. Et donc on pensait pas donner forcément la place surtout à Danielle Salnave, qui est membre de l'Académie française. Mais en fait, on est tombé sur deux tracts alors, qu'elle a écrits. Des tracts, c'est une collection en fait, de bouquins assez courts sur des sujets souvent plutôt politiques. Elle en a écrit deux qui s'appellent Jojo le gilet jaune et Parole d'en haut, silence d'en bas, qui en fait veut mettre en avant le fait qu'on écoute très très peu justement les citoyens, les gens qui forment la grande majorité de la population. Et ça tombait complètement avec notre ligne éditoriale. Donc on lui a laissé une belle interview. Et elle nous a pas déçus, parce que elle est quand même, c'est une personne assez âgée, mais elle y va franco et elle dit des choses très très pertinentes, et ouais, on s'attendait pas à ça.
Vous avez pu la rencontrer, comment ça s'était fait? Est-ce qu'elle est aussi, elle est originaire du coin, mais vous ne l'avez pas forcément rencontrée, j'imagine?
Oui, non, c'est quelqu'un qui est originaire de Savenir, effectivement, d'ailleurs, qui a fait un très très beau livre sur l'Anjou, qui s'appelle L'Églantine et le Muguet. Du coup, moi, je ne l'avais pas lu avant, je l'ai lu à occasion, j'ai appris énormément de choses sur le département. Et non, elle n'était pas en Anjou à ce moment-là, elle n'habite plus là, mais elle revient très régulièrement, notamment, je crois qu'elle elle anime un festival de littérature à Savenir. Mais non, on l'avait fait par téléphone, du coup.
Dans les articles également que vous proposez, au début du numéro, on va pouvoir retrouver un article sur les aides à domicile de l'entreprise Mona Lisa à Cholet, donc qui avait protesté contre des baisses de salaire, et un article qui permet d'éclairer un peu plus largement la situation de ces aides à domicile qui sont et très souvent des femmes et très souvent des travailleurs et travailleuses précaires.
Oui, tout à fait. Ça faisait longtemps aussi qu'on voulait parler de métier féminin. Alors, on l'a fait avec deux articles, donc avec cet article à Cholet sur une entreprise qui est présente à Cholet et Angers, qui s'appelle Mona Lisa, et donc qui fait de l'aide à domicile, donc qui s'occupe de personnes âgées pour leur faire leur ménage, les aider dans leurs tâches du quotidien. Et elles ont fait une grève par rapport à leurs conditions de travail. Elles ont gagné au tribunal des prud'hommes, donc la justice a reconnu que leur employeur était en faute. Et pourquoi on voulait mettre en avant ces métiers? C'est ce qu'on appelle en fait tout ce qui est métier du care, ou en bon français plutôt du lien ou du soin. Donc c'est tout s'occuper des personnes malades, âgées, en situation de handicap ou de jeunes enfants. Et en fait, systématiquement, ces métiers, économiquement, c'est pas très intéressant. Donc il y a beaucoup de manque de reconnaissance, des statuts très très précaires, des salaires au rabais. Et ce qu'on a pu voir dans nos enquêtes, c'est qu'en fait, ils sont exercés à 90% par des femmes. Alors, et les choses ne bougent pas là-dessus. Pourtant, au début de ce quinquennat, le président de la République disait que ça devait être la grande cause du quinquennat, l'égalité homme-femme, et là-dessus, les choses ne bougent pas, voire s'empirent. Donc on voulait vraiment mettre cet accent et rendre hommage à toutes ces femmes qui effectuent pourtant des métiers qui sont fondamentaux pour le lien dans notre société et qui sont malmenées aujourd'hui.
et ça passe oui, par des salaires assez faibles, et ça passe aussi par des rythmes de travail qui sont toujours en coupure, et ce qui font que finalement, sur des amplitudes de temps de travail avec les trajets et tout ce que ça inclut, le temps de travail compté est finalement très inférieur.
C'est ça, c'est-à-dire que quand elles rentrent chez une personne âgée, elles sont obligées de pointer sur leur téléphone pour montrer à l'employeur qu'elles arrivent, mais entre-temps, bah, si elles vont faire 5 visiteurs dans la journée, tous les temps de trajet autour ne sont pas rémunérés. Alors ça peut, elles vont faire au final en vrai une journée de travail complète, mais elles vont peut-être être payées que 4h, 4h30 dessus, alors que ça leur a pris toute la journée. Elles peuvent partir à 7h le matin et rentrer à 20h le soir, et avec ça pour gagner à peine un SMIC. Donc c'est une vraie question de société, qu'est-ce qu'on veut faire de ces gens-là, est-ce qu'on veut leur, avec tout ce qu'ils apportent à la société, est-ce qu'on veut enfin bien les rétribuer? Et au-delà de la question de la rémunération, ce qui ressort souvent dans les paroles de ces femmes, c'est le manque de reconnaissance, et qui leur fait très très mal de ne pas être reconnus à leur juste valeur.
C'est un des sujets récurrents qui revient au fil des numéros, hein, les conditions des travailleurs et travailleuses précaires. Et la critique liée à la manière dont cela fonctionne, c'est, j'imagine, des choses que vous allez continuer à explorer.
Ouais, on aimerait bien pouvoir arrêter, ça veut dire que les choses vont mieux, mais malheureusement, non, il y a beaucoup de choses à dire. Et on nous reproche parfois que la Taubette, c'est pas très positif, qu'on parle de sujets assez plombants, mais malheureusement, ouais, on fait avec le monde qui nous entoure, et il y a des choses pas réjouissantes. On espère que ça ira mieux, qu'on pourra faire des choses plus positives, mais effectivement, on va continuer d'enquêter sur les questions du travail, parce que c'est quelque chose de fondamental. Quand on parle aux gens en général, ce qu'ils mettent en avant, c'est leur travail, ça leur occupe beaucoup de temps, ça leur occupe leur esprit, ça les angoisse, donc il y a énormément de choses à raconter sur le monde du travail, et on va continuer à le faire, ouais.
Et pour les personnes qui trouvent la Taubette trop négative, il y a quand même cette fois-ci quelques petites choses plus légères, avec notamment la fameuse histoire de la start-upisation des mines de Trélazé.
Ouais, alors ça, je sais pas si les auditeurs ont entendu parler, ça a fait un petit peu de bruit à Angers. En fait, il y avait un appel à projet dans le cadre des assises de la transition écologique, qui est une initiative d'Angers Loire Métropole, qui en fait demandait aux citoyens un peu de réfléchir à quoi faire pour accompagner la transition écologique. Et il y a quelqu'un qu'on a rencontré, qui se fait appeler John Young, qui avait proposé de rouvrir les mines de Trélazé, des ardoisières, mais pas pour en extraire des ardoises, mais pour en extraire des terres rares, ces métaux et ces minerais qui sont indispensables à la fabrication de nos objets électroniques, que ce soit smartphone ou ordinateur. Et alors que, en fait, tout ça n'était qu'un gros fake, une grosse invention. Et ce qui a été assez drôle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont marché dans la combine. Il y a même la presse locale qui a fait un article des plus sérieux avant de le retirer. Et voilà, on raconte un peu cette histoire. C'est quelque chose d'assez rigolo, parce que son projet, notamment, il a usé, abusé d'anglicisme et de tout le langage qui entoure le monde des startups. Et ça a fait quelque chose de très drôle. Et je vous invite d'ailleurs, je pense que le projet est toujours, on peut toujours voter dessus sur le site de la mairie d'Angers. Je vous invite à lire la présentation aussi de son projet sur ce site. Vous allez bien rire.
Et vous avez étendu un peu, on va dire, cette utilisation de la novlangue avec le jeu de l'été qui utilise un peu, voilà, ce langage des élus.
C'est ça, ouais. On a voulu faire un peu une double page de jeu, ouais, avec des jeux où on voulait un peu rire autour de tout ce verbiage qu'utilisent les élus, ce verbiage d'ailleurs qui vient du monde de l'entreprise. Et notamment en ce moment, avec tous les tracts pour les élections régionales ou départementales, on se régale, on commence un peu à les analyser, on est déçus d'avoir sorti le journal si tôt, parce qu'on aurait pu rajouter plein de choses. Mais voilà, en fait, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est, ouais, on fait des jeux, on s'amuse, on se moque un peu des élus, mais c'est aussi toujours avec du fond, c'est pour raconter que tous ces mots qu'on prend pas, j'en ai quelques-uns sous les yeux: axe structurant, forfait post-stationnement, smart, attractivité, écosystème, etc. C'est des choses qui donnent une forme technique au langage politique, et ça éloigne toujours un peu plus les citoyens qui ne comprennent pas ce que les élus disent, parce que souvent ça ne veut rien dire, et même nous qui avons l'habitude de travailler sur ces questions-là, souvent on ne comprend rien, et vraiment ça éloigne le citoyen de la politique, et c'est dangereux, parce que du coup le citoyen n'arrive pas forcément à voir ce qu'il y a derrière ce langage, n'arrive pas forcément à décrypter, et derrière toute idée, proposition politique, par définition, ça a un contenu politique, donc ça a des conséquences pour la vie des gens. Donc il faut essayer de ne pas se laisser dominer par tout ce langage. Donc nous, on a préféré plutôt s'amuser avec ça.
Je crois qu'on a fait le tour un peu dans les grandes lignes. Il nous reste peut-être un article qui était également intéressant sur... je me perds dans mes notes. Sur la suppression, la modification en tout cas des classes à la rentrée scolaire prochaine. Pareil, hein, sur les services publics, on retrouve des thématiques récurrentes dans les sujets que vous abordez.
Mmh. Ouais, tout à fait. Mais là, cette fois, on avait été contacté par des parents qui militaient pour sauver la classe dans un petit village dans le Léon. Parce qu'il faut savoir que tous les ans, en fait, l'éducation nationale va on va regarder son tableau Excel, voir l'évolution du nombre d'enfants dans chaque école et supprimer ou rajouter des classes. Et il se trouve que c'est un peu une saignée cette année parce que rien qu'à la rentrée 2021, donc, il y aura pas moins de 49 classes qui seront fermées dans tout le département. Ça concerne une école sur 10 et ça a des conséquences assez importantes parce que dans certaines communes, ça peut être carrément l'école qui va fermer, ou alors dans d'autres classes, on va avoir ce qu'on appelle des classes à multiniveaux, c'est-à-dire que des fois, ça peut aller du CP au CM2. Donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour l'éducation des enfants, et surtout qu'il n'y a pas de continuité, parce que ça veut dire que les instituteurs, les professeurs des écoles sont baladés d'école en école et ne peuvent pas assurer un vrai suivi avec les enfants, et c'est quand même très triste. On voit, du coup, c'est un peu toutes les conséquences de la politique managériale de l'État, et qui a des conséquences directes sur ce qui est le plus important, à savoir l'avenir des enfants, donc l'éducation.
Et pour terminer peut-être, et sur une touche un peu plus humaine, peut-être parler du portrait de fin de journal qu'on retrouve avec ce trimestre-ci, donc l'accompagnatrice.
Ouais, tous les numéros, on s'amuse à faire un portrait. On veut prendre un peu le contre-pied, par exemple, de ce que peut faire Libération, qui invite un politique, un artiste très connu, un acteur, etc. Nous, on présente des gens lambda, des gens ordinaires. Donc avant, on l'avait fait avec la dernière éclusière du Maine-et-Loire, on avait pu faire le président d'un petit club de foot dans un village ou un épicier à la campagne, et là cette fois, comme on parlait tout à l'heure des métiers féminins, on le fait avec une AESH. Alors une AESH, c'est un peu encore un acronyme difficile à dire, mais en fait c'est quelqu'un qui accompagne les élèves handicapés et qui a un vrai rôle social, parce que c'est des élèves handicapés qui sont dans des classes avec des enfants de niveau normal, et donc elle doit l'accompagner toute la journée pour l'aider à mieux comprendre, pour mieux interpréter les choses, et voilà, c'est encore un métier malmené, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup son métier, qui se défonce au travail, surtout pour les enfants, et voilà, c'est toujours une touche très humaine qu'on essaie de mettre dans ses portraits, et ça donne un peu de respiration aussi dans le journal.
Ouais, alors Julien, j'aurais quelques questions rapidement pour la fin de l'émission. Tout à l'heure, tu as dit que vous aimeriez bien traiter de plus de sujets. Alors comment ça va se passer? Vous allez attendre de voir comment le temps passe. Est-ce que vous allez conserver ce format en 16 pages? Peut-être passer à une parution d'un numéro tous les deux mois au lieu d'être trimestriel? Est-ce que c'est déjà des pistes que vous envisagez?
Bah ouais, effectivement, on est frustrés de ne pas pouvoir traiter tout ce qu'on voudrait. Ouais, on aimerait bien augmenter le nombre de pages. Le problème, ça va être un manque de temps aussi, parce que c'est compliqué à chaque fois de boucler un numéro, aussi une question d'argent, parce que ça, c'est ce qui nous coûte le plus cher, c'est d'imprimer. Mais pourquoi pas, ouais, si on continue, on espère bien augmenter de 4 pages prochainement, on verra.
Alors, ça a été dit aussi, on est sur un numéro assez estival et rural, vous voyez, voilà, il y a cette enquête sur les rivières, la fermeture des classes dans les villages, la police qui débarque à la campagne. Est-ce que tu penses que la Topette, de façon générale, comble en fait une information dans ces territoires ruraux qui est plus abordée, on va dire, dans la presse plus courante, à travers plus l'angle des faits divers, où là vous proposez des enquêtes un peu plus fouillées? Vous êtes les seuls à occuper ce créneau ou
En tout cas, c'est vrai que vu de Paris, quand on se déplace en région, c'est souvent pour un fait divers, parce qu'il y a une actualité, un fait divers ou un fait politique ou quelque chose un peu d'anecdotique qui va attirer les projecteurs sur une ville, et c'est dommage. Nous, justement, ce qu'on veut faire, c'est montrer ce qu'il y a derrière, c'est plutôt montrer les dynamiques qui se passent à la campagne, notamment, on en parlait, et voir les choses plus en profondeur et en perspective. Alors, c'est vrai que la presse quotidienne régionale, heureusement, tient ce rôle de proximité. Elle peut pas forcément le faire partout, parce qu'elle marche aussi beaucoup avec des correspondants et elle est assez présente en ville. Et c'est vrai que nous aussi, les précédents numéros, enfin le numéro de mars notamment, on s'était rendu compte qu'on était assez urbain. C'était lié au confinement, je pense, parce qu'on n'avait pas pu trop bouger. Et du coup, là, on voulait un peu sortir plus d'Angers, prendre la voiture, le vélo pour aller à la campagne et raconter des choses qui se passent à ces endroits-là. Ouais.
Dernière question, on vient d'abord d'évoquer le traditionnel portrait de fin de numéro. Donc on a eu une éclusière, l'épicier du village, le président d'un club de foot et cette fois-ci l'accompagnatrice. Comment est-ce que vous les trouvez en fait, ces gens ordinaires, comme vous aimez le dire?
C'est varié. Des fois, c'est fait de rencontres, de contacts via. Là, pour le coup, avec cette personne qui était à ESH, c'est qu'il y avait une mobilisation, en fait, des AESH sur le département pour dénoncer leurs conditions de travail. Donc, on s'était donné rendez-vous avec à l'un de leurs rassemblements. Puis ensuite, on a pu échanger, établir un lien de confiance, parce que ça, c'est très important. On n'aime pas juste arriver avec notre calepin, faire l'interview en 10 minutes. On aime bien voir les gens plusieurs fois pour mieux les comprendre, pour mieux faire ressortir ce qu'elles font de leurs pensées. Et c'est très varié, ouais. Mais des fois ça peut être aussi des rencontres fortuites qui vont donner naissance à un portrait.
Et là, pour l'été, comment ça va se passer? Vous allez faire une pause aussi, j'imagine. Vous avez déjà commencé à travailler sur le numéro de septembre ou vous allez le faire dans les mois qui viennent?
Non, justement, on a décidé de renchaîner directement parce qu'on aimerait bien prendre un peu de vacances aussi, ça va faire du bien. Et puis parce que les gens sont moins disponibles cet été, donc là, on va bosser à fond en juin jusqu'à mi-juillet, prendre une petite pause et puis pour repartir en août sur les chapeaux de roue afin de boucler pour que le prochain numéro soit en kiosque en septembre.
Bien, merci beaucoup Julien d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous pouvez donc retrouver tous les points de vente de ce numéro 4 de La Topette sur votre site qui est latopette.fr. Il va être quant à nous déjà l'heure de nous quitter. Ce soir, c'est mardi soir. Vous retrouverez donc le 3615 Chill Out ainsi qu'Electric Troubles. On se retrouve quant à nous demain soir pour un nouveau pédalo. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.